Soupçon, The Staircase, titre en anglais, c'est une série documentaire criminelle, commencée en 2003, déjà diffusée et qui s'achève cette année avec 3 épisodes inédits. C'est une aventure audiovisuelle unique, une saga tournée pendant 15 ans. Canal Plus rediffuse les 10 premiers épisodes à partir du 31 mai et les inédits à partir du 5 juillet. Le réalisateur, c'est Jean-Xavier de Lestrade. Il est notre invité. Bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai vu votre série intégralement. C'est époustouflant. C'est le réel, la force du réel, un drame à rebondissement, un homme mystérieux, des zones d'ombre, l'histoire d'une famille, un système judiciaire, la turpitude de certains individus, leur grandeur aussi, leur intelligence du combat pour la justice. C'est la description d'une vie, d'une société dans une ville moyenne américaine. C'est un documentaire sur l'Amérique. Alors le point de départ, je le rappelle, 2001, un Américain aisé, Michael Peterson, dans sa belle maison, il appelle les secours, sa femme est tombée dans les escaliers, elle baigne dans son sang, elle meurt. La police ne croit pas à l'accident, pour la police c'est un meurtre. Nous sommes à Durham, en Caroline du Nord, il y aura un procès. Je m'arrête là pour l'instant.
Ah oui, n'est pas surtout, n'est pas
absolument. Jean-Xavier de Lestrade, comment avez-vous rencontré Michael Peterson, le personnage principal de votre série?
Ah, c'est un long processus pour arriver jusque là. En fait, jusqu'à Michael Peterson. En fait, le film précédent, j'avais fait un film qui s'appelle Un coupable idéal, qui était aussi une histoire criminelle, qui impliquait un jeune garçon noir, un adolescent, en Floride, qui avait été accusé d'un meurtre. Et ce jeune adolescent venait d'une famille modeste, sans argent et pris dans le système judiciaire. On lui avait donné, il avait eu un avocat commis d'office. Mmh. Et donc j'avais fait un film de 2 heures et ce film avait été diffusé un peu partout dans le monde et notamment aux États-Unis par HBO. Et HBO, la chaîne américaine, m'avait demandé de faire un autre film aussi un peu sur le même procédé en prenant une histoire criminelle qu'on découvre et qu'on filme sous nos yeux. Et c'est assez complexe à trouver j'avais un peu hésité. Puis j'avais dit finalement oui, à condition de trouver le pendant, mais l'opposé de cette histoire-là. Donc je cherchais l'histoire de quelqu'un d'aisé, de la majorité, d'un blanc, qui a de l'argent, donc qui se retrouve pris dans une affaire criminelle et qui a les moyens de se payer un avocat pénaliste, un très bon avocat pénaliste, qui va dépenser des centaines de milliers de dollars pour se défendre.
800 000 dollars.
Hein, oui, et donc d'examiner comment... J'avais vu comment le système judiciaire avait traité cette histoire de jeune adolescent noir, et là, de voir comment, finalement, aussi la justice, l'institution judiciaire, allait traiter Michael Peterson. Et donc... pour arriver jusqu'à lui, on a examiné avec une petite équipe, on a mis 4-5 mois pour trouver l'histoire. Et là, on débarque, Kathleen Peterson, on la retrouve morte dans la nuit du 9 à 10 décembre 2001. Oui. Et nous, on est arrivé vers au mois de février de 6-7 semaines après la découverte de son corps. Et donc, assez vite.
Quand même. Et pendant 15 ans, vous allez suivre tous les rebondissements de cette affaire. Jean-Xavier de Lestrade, mais comment vous êtes-vous organisé pour suivre tout cela? Vous n'êtes pas resté 15 ans
Durham,
surtout pas. En Caroline
du
Nord.
Non, c'est juste 46 ou 47 allers-retours Paris-Durham. On connaît très bien la ligne aérienne. Oui, j'ai fait d'autres films, heureusement. Je n'ai pas fait que Soupçon, que Staircase, et heureusement.
Mais comment avez-vous fait pour être là, toujours au bon moment, vous filmez, on capte des moments de vérité, des moments dramatiques, des moments tragiques, et vous êtes là?
Oui, alors, au début, le premier tournage qui s'est déroulé sur 22-23 mois, là, on était là quasiment en permanence. Donc c'est quasiment 2 ans de ma vie entre 2002 et 2004 où on avait loué des appartements, on était là-bas quoi à Durham. Et ensuite c'est par pointillé, mais j'ai toujours gardé le contact très étroit avec tous les personnages et donc dès que je sentais qu'il pouvait se passer quelque chose, hop, on remobilisait l'équipe, tout le monde s'organisait pour mettre de côté ce qui était un suspens, ce qui était un cours pour eux, et puis on partait à Durham. Et ce qui est assez formidable, c'est que chaque fois, finalement, la même équipe, et c'est ce qui permet aussi d'obtenir ce qu'on a pu obtenir, parce que ce sont les mêmes personnes exactement, le chef op, l'ingénieur du son, productrice, et moi, tous les quatre à être... à partir là-bas, à pouvoir se dégager du temps pour pouvoir filmer ce qui était intéressant. Mais parfois, vous partez à Durham, vous passez une semaine, et puis ce qui devait se filmer ne se filme pas, vous faites un aller-retour pour rien. Mais il faut être prêt à ça. Vrai que ça demande quand même une sorte à la fois de discipline et de d'engagement assez singulier.
Ce qui est formidable dans votre série, c'est qu'elle raconte les mystères, les secrets d'un homme, ses mensonges sur sa vie. Mais finalement, tout le monde ment. On se retrouve dans votre documentaire.
Oui, c'est ça qui m'intéressait. C'est au-delà de c'est pas seulement fait divers, évidemment. On examine la mort de Katim Peterson. Ça permet, vous l'avez souligné, ça permet de décortiquer le fonctionnement d'une société, de l'institution judiciaire américaine, mais pas que. Je pense que c'est une vraie réflexion sur qu'est-ce que la justice et sur un personnage, Michael Peterson, qui est au centre de la série, et dans ces mystères, dans la complexité d'être humain chez lui, je pense que on atteint une forme d'universel et tout le monde peut se reconnaître effectivement dans les petits mensonges de la vie qu'on peut commettre et que lui commet et qui font que aussi on peut le voir comme quelqu'un, comme un criminel ou comme quelqu'un capable d'avoir tué sa femme.
Que nous dit votre série, Jean-Xavier de Lestrade, au bout de 15 ans? Qu'est-ce qu'elle nous dit sur la justice américaine?
C'est une justice très particulière. C'est une justice où, sincèrement, je ne souhaite à personne d'être pris dans une affaire judiciaire aux États-Unis. Quel que soit ce que vous avez commis, si vous êtes pris dedans, en fait... Comme tout se juge à l'échelon local, finalement, quand un juge, un procureur se mettent d'accord, la police se met d'accord au niveau local, c'est une communauté. En fait, vous pouvez vous rendez compte que des gens sont prêts à mentir et à la barre des témoins dans une cour de justice, dans une cour d'assises, et donc. Parfois, si tous ces gens-là se mettent d'accord pour obtenir une condamnation, la machine, c'est très 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 difficile de l'arrêter. Extrêmement difficile.
Le fait que ce soit une justice aux États-Unis filmée, est-ce que ça change, selon vous, la recherche de la vérité et de la justice? Vous avez bénéficié de cette situation puisque vous êtes omniprésent, vous filmez le procès, vous êtes d'ailleurs même mis en cause devant la caméra par la sœur de la victime qui accuse Michael Peterson et qui dénonce la présence de ces caméras françaises.
Je pense que ça ne change pas. En fait, eux sont habitués. D'ailleurs, enfin, il y a certains États où ce n'est pas possible, mais là, effectivement, Caroline du Nord, c'est possible. Je ne pense pas que ça change le cours des événements ou le cours des décisions judiciaires. Après, nous, notre travail, puisqu'il s'est déroulé sur 15 ans, le fait de revenir à chaque fois qu'il se passait un événement. Forcément, toutes les parties prenantes, que ce soit du côté de l'accusation, le juge, la défense, savaient aussi qu'on était là, qu'on faisait un travail au long cours. Et du coup, pour eux, simplement, ils faisaient peut-être encore plus attention à leur manière d'être et à ce qu'ils faisaient et aux décisions qu'ils allaient prendre, forcément.
Alors, en quelques mots, hein, je le dis, Michael Peterson sera condamné. Il va faire de la... Ah non, attendez, attendez. Il va faire de la prison et puis on va découvrir qu'un expert judiciaire a faussé des analyses de sang et de recherche ADN et pour enfoncer Peterson et ça va relancer toute l'affaire. On en parlera encore et puis on parlera de la justice américaine, de son fonctionnement quand même très particulier si on compare à la nôtre avec Jean-Xavier de Lestrade qui est notre invité ce matin. Et Patricia Martin, vous avez des questions aussi pour Jean-Xavier de Lestrade. Après la revue de presse, ce sera dans quelques secondes. Nous recevons ce matin Jean-Xavier de Lestrade, réalisateur de la série documentaire Soupçon qui sera diffusée sur Canal+ à partir du 31 mai et sur Netflix à partir du 8 juin. L'histoire vraie, oui, vraie en 13 épisodes aux États-Unis en Caroline du Nord d'un homme accusé du meurtre de sa femme, une saga judiciaire filmée par Jean-Xavier de Lestrade pendant 15 ans, Patricia Martin.
Oui, tout à l'heure, vous disiez que Peterson pouvait être criminel, donc capable d'avoir tué sa femme, mais peut-être pas. Est-ce que vous, vous aviez une idée de la chose, une appréhension, une intuition au départ ?
J'ai essayé de ne pas en avoir et de garder la distance qu'il faut pour pouvoir réaliser un film. Mais bon, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des sentiments, des intuitions.
Et ça
a été très, très fluctuant. C'est-à-dire qu'au départ, tout, quand vous commencez à examiner les pièces du dossier, tout semblait finalement l'accuser. C'était beaucoup plus simple de penser qu'il était criminel puisque sa femme qui a été retrouvée au bas d'un escalier, il y a pas mal, elle a souffert de pas mal de blessures, il y a du sang partout. Et quand vous regardez les photos de la police, émotionnellement, vous dites non, c'est pas un accident, c'est un crime, il y a eu une dispute, et il l'a frappé. Et intellectuellement aussi, c'est plus simple de penser ça parce que au moins c'est un argument dans un couple, une dispute, et puis voilà, c'est rationnel. Quelque part, c'est rationnel.
Et c'est une réponse rapide aussi qu'on donne à une inquiétude qu'on a tous.
Exactement, à une angoisse qu'il pourrait y avoir. Alors que de penser que c'est un accident, que ce couple-là avait passé une bonne soirée et qu'à un moment donné, elle a décidé, elle, ils étaient à l'extérieur de la maison en train de boire un verre et puis elle décide de rentrer avant lui et qu'elle va tomber dans l'escalier toute seule alors que lui va rester au bord de la piscine et qu'elle va se vider de son sang parce qu'elle ne meurt pas, elle meurt en perdant du sang, simplement. Les blessures qu'elle a sont des blessures superficielles, elle a beaucoup de blessures mais elles sont toutes superficielles et la cause du décès c'est la perte, elle meurt en se vidant de son sang. Et donc de penser ça, cette chose-là est quand même terriblement angoissante, hein, d'imaginer une femme seule comme ça qui se vide de son sang pendant une heure et demie, c'est terrifiant.
Ce qui est très impressionnant à Patricia dans ce documentaire, dans cette série, c'est que le personnage principal, l'acteur principal, si je puis dire, mais on est dans la réalité, Michael Peterson, je l'ai dit, il sera condamné par la justice, il va faire de la prison, et Jean-Xavier de Lestrade, qui a filmé les rebondissements pendant 15 ans, il nous fait voir les dégâts physiques de la prison sur cet homme, il va être incarcéré pendant 8 ans.
Plus de 8 ans, oui. Oui, c'est ça qui est, c'est ça qui était passionnant à filmer dans cette histoire, c'est que quand vous filmez effectivement pendant 15 ans, vous voyez les gens vieillir et vous voyez que pour certains, la vitesse de vieillissement n'est pas la même que pour les autres. C'est un peu la relativité comme quand vous envoyez quelqu'un dans l'espace.
Non, mais là, c'est comme quand, par exemple, dans la rue. Dans la rue, on vieillit beaucoup plus vite les gens qui vivent dans la rue. Et les gens qui vivent en prison, c'est un peu
et
la
là,
même chose.
Pour Michael Peterson, puisqu'il a fait un peu plus de 8 ans de prison, effectivement, entre l'homme de 60 ans, très en forme physiquement, qui est condamné, et celui qui après les 8 ans et demi de prison, celui qu'on découvre, mais c'est quasiment un vieillard à ce moment-là. On a l'impression qu'il a passé 20 ans en prison. Et c'est ça aussi qui permet de mesurer l'effet physique de l'incarcération. Et aux États-Unis, comme ailleurs, mais aux États-Unis aussi, c'est quand même très... Enfin, les conditions d'incarcération étaient assez dures et au niveau de la nourriture, des soins, enfin, il a eu accès à rien, enfin, ce qui est le le commun des gens qui sont incarcérés.
Votre documentaire, votre série, ça montre l'Amérique profonde, ça montre le fonctionnement de la justice américaine. Alors je reviens à l'actualité. Harvey Weinstein, inculpé pour un viol et une agression sexuelle, inculpé, il a cependant été laissé en liberté, moyennant une caution $1 million. Bon, il porte aussi un bracelet électronique, mais on découvre que l'argent est essentiel dans la justice américaine. Je pense qu'un pauvre type sans argent, inculpé pour un viol et une agression sexuelle aux États-Unis, là actuellement, il serait en prison.
Oui. Alors effectivement, il y a vraiment une justice à plusieurs vitesses. Ouais. Il y a la justice un peu expéditive des gens qui n'ont pas d'argent. Et ces gens-là, on les encourage très vite à plaider coupable, tout de suite. De toute façon, vous n'avez pas d'argent pour vous payer un avocat. Les avocats commis d'office, en général, ne sont pas forcément de très bons avocats, ou ce sont même des avocats qui vont eux-mêmes vous encourager à aller plaider coupable. Donc, plaider coupable, c'est négocier la peine directement avec le procureur. Donc, c'est une justice expéditive qui traite de plus de 80% des dossiers. Et il n'y a pas de procès dans ces cas-là. Ça va très vite.
C'est la négociation.
On négocie. C'est ouais. Du marchandage. C'est une justice mercantile. Et tout le monde fait des économies. On dit, la société fait des économies. Le prévenu, le futur condamné fait des économies.
Et dans votre série, on voit des négociations. Il y a des discussions.
Oui, aussi. Oui. Ouais. Et quand vous avez de l'argent, vous pouvez a priori mieux vous défendre, évidemment. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, Michael Peterson va dépenser pour son premier procès plus de $800 000 de frais d'avocat. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que oui, l'argent, on a du pouvoir avec l'argent, on a certains pouvoirs, notamment celui de rester en liberté en déposant une caution, mais ce pouvoir-là a des limites, et on le voit dans cette histoire, c'est que les gens de l'accusation, la police scientifique, enfin, à un moment donné, si des gens veulent fabriquer des preuves, mentir à la barre, rien ne peut arrêter ça. Et pas l'argent.
Justice américaine, justice française aussi. J'ai vu que vous vouliez adapter Laetitia d'Yvan Jablonka, hein, qui est un très très beau livre qui a reçu le prix Médicis en 2016. C'est un projet d'intérêt général, disait Jablonka. Cette fille, Laetitia Perret, donc, a été enlevée tout près de chez elle et qui a ensuite été poignardée et étranglée. Vous allez en faire aussi quelque chose de social et politique comme l'est le livre.
Ah oui. C'est ce qui m'a fasciné dans le livre d'Yvan Jablonka. C'est lui a pris ce fait divers comme en tant qu'historien, sociologue, et il l'étudie de ce point de vue-là, en donnant la parole à chaque acteur de cette tragédie.
La parole à ceux qui ne l'ont pas, quelquefois.
Et notamment à ceux qui ne l'ont pas. Enfin, surtout, il a fait, d'une certaine manière, revivre à la fois Laetitia et Jessica, sa sœur jumelle.
Oui. Vous allez donc prendre des
C'est extrêmement difficile. C'est vrai que ma première réaction, j'étais vraiment happé par le livre, fasciné. Je trouvais ce livre formidable.
Parce qu'en plus, il dit Laetitia, c'est moi. Oui. Il y a une identification à la personne.
Oui, oui. Et si on veut aller, si on veut le faire, ce projet, on doit aussi se mettre à la place de Laetitia, essayer de se mettre à sa place et de dire oui, Laetitia, c'est moi. Mais c'est une œuvre, c'est un livre. Et pour en faire une série, donc prendre des comédiens, la dramatiser pour la télévision, c'est un défi extrêmement difficile. Et il va falloir être très, très, très prudent dans la représentation de cette histoire.
Je reviens sur cette série, ces 13 épisodes, Soupçons, avec ce grand moment. Vous avez rencontré le juge qui a prononcé les peines. Et il y a une scène formidable où il admet, ce juge, un doute raisonnable.
Oui, ça faisait partie un peu des buts. Et les buts de la série, de ce long travail, c'est qu'à un moment donné, de pouvoir être face au juge et avoir quelque chose de sincère et non plus un discours politique, entre guillemets. Et ça, c'est vraiment quasiment l'un des deux, trois derniers jours de tournage où il nous accorde cette interview. Et là, L'affaire est terminée d'un point de vue juridique, il n'y aura plus d'appel, il n'y aura plus rien, c'est réglé. Et il peut enfin dire un tout petit peu, même s'il reste quand même tout très prudent, mais dire ce qu'il ressent au fond de lui et exprimer cette phrase quand même inouïe, revenir admettre qu'il a commis des erreurs et dire au fond que, en fait, jamais il n'aurait dû être condamné, Michael Peterson. Jamais. Alors que lui a présidé ce procès pendant 5 mois et a pris toutes ses décisions.
Jean-Xavier de Lestrade, réalisateur de cette série Soupçon, travail époustouflant, exceptionnel, on est accro. C'est diffusé donc sur Canal+, à partir du 31 mai. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin sur France Inter.
Merci à vous.